samedi 10 septembre. La fin de semaine est à 7 heures. Bonjour, bonjour, c'est Jean-François Coulombe qui vous parle. J'espère que vous allez bien ce matin. Heureux de vous retrouver. 7 degrés, c'est un peu frais à Saguenay, sous soleil cependant. Je vous donnerai d'ailleurs les détails de la météo dans quelques minutes. Nous sommes le 10 septembre aujourd'hui, ce qui veut dire que demain, c'est le 11 septembre, vous l'aurez compris. Alors, ai-je besoin de vous dire ce que l'on retrouve à la une des quotidiens ce matin? Le 11 septembre, évidemment, particulièrement à la une du Devoir et de la Presse, puisque comme ces deux quotidiens ne sont pas publiés demain, on y consacre plusieurs pages. On vous parlera aussi du 11 septembre un peu plus tard au cours de l'émission, mais d'une façon un peu particulière. Vous allez voir, c'est le cas de le dire. Écoutez pour voir. Le quotidien consacre aussi sa une et quatre pages au 11 septembre. Et aussi au début de saison des Saguenayens, parce que les Saguenayens de Chicoutimi reçoivent les voltigeurs de Drummondville cet après-midi au centre Georges Vézina, et les chroniqueurs du quotidien y vont de leurs prévisions à l'aube de cette nouvelle saison. Et nous aussi, en quelque sorte, nous amorçons une nouvelle saison ce matin. Enfin, on vous en a donné un aperçu la semaine dernière, mais vraiment, ce matin, on retombe sur nos pattes et on en est bien content. Alors, au cours de l'émission, vous retrouverez certains de nos collaborateurs réguliers, dont notre club globetrotter Yves Ouellette, qui nous amènera faire du vélo dans la région de Québec. On reprend aussi notre bonne habitude de consacrer une heure de notre émission à un thème. Vous le savez, un thème qui tourne autour d'un chiffre, d'une lettre ou d'une couleur. C'est la lettre L qui sera à l'honneur entre 9h et 10h. Qu'est-ce qu'une lobotomie et est-ce pratiqué encore aujourd'hui? Faut-il craindre les loups? Et qu'est-ce que la liberté? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre. Notre politologue en résidence, Michel Roche, nous dressera également un portrait d'un homme qui a marqué le 20e siècle. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, un certain Lénine. Également, la 13e édition de la Distromarche va se dérouler demain à Jonquière. Nous y participerons après les informations de 8h30. Mais pour l'instant, on amorce un deuxième tour du monde qui va nous amener un peu partout sur la planète au cours des prochains mois. Première destination, le Cameroun, pays d'Afrique centrale dont je vous reparle d'ailleurs après cette première pièce musicale, une pièce interprétée par Anne-Marie Ndiaye, que l'on surnomme la maman de la musique camerounaise ou encore la voix d'or. Elle a enregistré son premier disque en 1954 et ce qu'elle interprète s'intitule « Ma Bella Namouri », enregistré en 1999, qui se veut un hymne à la solitude. C'est un thème récurrent chez elle. Alors, armer les toboggans, vérification de la porte opposée, prêt pour le décollage. Bon voyage.
Ota, ma belle namouri, mouri, kumba mami mangi. mangi
l'appelle pas la voix d'or pour rien. Anne-Marie Ndiaye, interprète camerounaise. 7 degrés sous le soleil dans l'arrondissement Chicoutimi. Écoutez, la météo, c'est vraiment pas compliqué. C'est ensoleillé sur l'ensemble du territoire aujourd'hui avec des maximums qui tournent autour de 15 degrés. Dégagé pour la nuit prochaine avec, oh, zéro dans la réserve phonique des Laurentides pour la nuit prochaine. Et on est, nous sommes le 10 septembre. 5 pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que chez Bougamo. Et pour demain dimanche, c'est ensoleillé. Il y aura ennuagement tard en après-midi ou encore en début de soirée avec de 40 à 60 % de probabilité d'averse. Mais sinon, c'est une journée généralement ensoleillée et plus chaude qu'aujourd'hui également, maximum de 20 à 22 degrés pour demain. Je vous rappelle donc que nous sommes au Cameroun ce matin et qu'entre 7h et 8h, comme on l'a fait pour la saison dernière, nous visiterons différents pays. On vous invite à nous suggérer soit des pays ou encore des personnes qui viennent d'ailleurs et qui habitent maintenant ici et que l'on pourrait rencontrer au cours des prochains mois. Vous pouvez nous joindre par téléphone au 696-6600 poste 7777, par courriel la fin de semaine en un mot @radio-canada.ca et nous sommes maintenant sur les réseaux sociaux comme nous sommes en 2011. Ce matin donc, République du Cameroun, pays d'Afrique centrale, je vous le disais, situé entre le Nigeria, le Tchad, la République centrafricaine, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République du Congo et le Golfe de Guinée. Et il y a une similarité, en fait, entre le Cameroun et le Canada, c'est que c'est un pays officiellement bilingue, avec le français et l'anglais comme langue officielle. Le Cameroun compte 20 millions d'habitants. Sa capitale est Yaoundé. D'ailleurs, nous irons déjeuner à Yaoundé après le bulletin d'information de 7h30. Sauf que la plus grande ville du pays, c'est Douala. Et d'où vient le nom, l'appellation Cameroun? Ben, ça vient du fait que les marins portugais sont entrés dans l'estuaire du Wouri en 1472 et devant l'abondance des crevettes que l'on trouvait dans le cours d'eau, ils l'ont baptisé simplement Rios dos Camarões. Enfin, j'imagine que ma prononciation n'est pas correcte, mais toujours est-il que c'est la rivière des crevettes, vous l'aurez compris. Et le nom a par la suite été anglicisé par les marins britanniques, donc c'est devenu Cameroun. Mais ça peut-être, le nom a été donné par les Portugais et anglicisé, mais c'est une ancienne colonie allemande, le Cameroun. Je vous en reparle après la prochaine chanson. On écoute la formation Maracas, composée de deux femmes d'origine camerounaise, une formation qui date de 2001. Et le nom de la formation est celui d'un instrument très utilisé pour donner le rythme à des chants très traditionnels des diverses régions de leur pays. Ils interprètent une chanson en langue bantoue.
Bongo basse bak bandongo mazou mayone asumi bumbuwa
kion tengawe ungwesbe malumbe kion bonwe lewo labe mutupe
ibongo bunda mi mbobana ibongo bunda mi yonana zamba yenina Sam
Il est 7h17 minutes et je vous disais juste avant la chanson que le Cameroun est une ancienne colonie allemande. C'est vrai, sauf que le territoire du Cameroun a été placé sous la tutelle de la Société des Nations, ce qui est l'ancêtre des Nations Unies, à la fin de la Première Guerre mondiale, donc suite à la défaite allemande. Et le territoire a été confié à l'administration de la France et du Royaume-Uni, d'où le résultat que le Cameroun est un pays bilingue. En fait, l'indépendance de la zone française a été proclamée le 1er janvier 1960, celle de la zone anglaise un an plus tard, ce qui fait que le Cameroun est membre et de l'Organisation internationale de la francophonie et également du Commonwealth. Et comme le pays est encore aujourd'hui un melting pot de quelques 280 ethnies parlant plus de 200 langues, ben le résultat, c'est que le Cameroun n'a pas de langue régionale dominante ou commune et qu'on utilise encore les deux langues des colonisateurs comme langue officielle. D'ailleurs, même si les francophones sont majoritaires, ils forment à peu près 80 % de la population, le bilinguisme est officiellement encouragé par le gouvernement. La plupart des documents officiels sont publiés dans les deux langues, comme c'est le cas au Canada. Mais on dit que la jeunesse urbaine au Cameroun a créé une forme d'argot. Ça s'appelle du camfranglais et ça consiste en un mélange de français, d'anglais et de dialectes locaux. Et donc, le camfranglais varie d'une ville à l'autre parce qu'évidemment, le dialecte local n'est pas le même selon où on se trouve sur le territoire camerounais. Cela dit, les premiers habitants du Cameroun n'étaient ni des Français ni des Anglais, mais plutôt des Baka, que l'on appelle également les pygmées. Et il y a toujours des Baka ou des pygmées dans les forêts des provinces du sud et de l'est du pays. On écoute maintenant Henry Dikongé, originaire du Cameroun. Il a grandi dans la capitale Yaoundé. Il est né dans une famille de musiciens. C'est auprès de son oncle qu'il a appris la guitare acoustique. Sa grand-mère l'a amené pousser ses premières vocalises à la chorale protestante du quartier La Briqueterie. Henry Dikongé chante en Douala, qui est la ville natale de ses parents, et sa musique originelle est le Makossa. Il y vit maintenant en France depuis 1985.
Amuna mumi, mama wende taki sembae. Amuna mumi, mama wende topse pondame. Ituma ponda, bisona wamo, neno jombae. Ituma ponda, bisona wamo, neno dikome. Ituma ponda, bisona wamo, neno diwutae. Nake kibon weli sani wae, wende. Na wolo pon weli sani wae, ashiramu. Wentemba wenge, tumbange yango e. 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 Thank you. wo si boli tom ya mwambe Torika kito wo si boli tom ya mwambe Tomba mene pe na si ben pe nyongango tata Nyola na bunya tenge ubende bolala mwambana Nyola na bunya tenge ubende bolala Welisanemba, welisanemba, namaolo ekwarango. Wentemba wenge,
wentemba wenge,
tumbange yangoe,
tumbange yangoe.
Wentemba wenge,
wentemba wenge,
tumbange yangoe,
tumbange yangoe.
Wentemba wenge.
Français, le titre de cette chanson est « Si tu me croises un jour » et l'on la retrouve sur l'album « C'est la vie » de Henry Dikongé. D'ailleurs, je vous rappelle que l'on retrouve les titres des chansons qu'on vous fait entendre au cours des quatre heures de l'émission sur le site de l'émission, quelques heures ou quelques minutes après la fin de l'émission. La façon la plus simple d'y accéder, www.radio-canada.ca/ la fin de semaine en un seul mot. Je vous disais que le Cameroun est un pays très diversifié sur le plan ethnique, sur le plan religieux également. 70% de chrétiens composés de catholiques et de protestants, 20% de musulmans, 5% d'animistes et c'est un pays officiellement laïque. Le point culminant du Cameroun, c'est le mont du même nom, le mont Cameroun. Il culmine à 4095 mètres d'altitude, ce qui en fait non seulement le plus haut sommet du Cameroun, mais le plus haut sommet de toute l'Afrique de l'Ouest. Et parmi les sites touristiques dignes de mention, mentionnons le potentiel des chutes de la Lobé. La particularité du fleuve Lobé, c'est que c'est le seul fleuve au monde qui se jette à la mer par une chute. Donc, il se jette dans l'océan Atlantique par une chute. Et semble-t-il que c'est un lieu absolument magnifique, même si le tourisme est plus ou moins développé au Cameroun, mais semble-t-il qu'on fait des efforts, justement, pour amener un peu plus de touristes là-bas. Il y a aussi un point commun entre le Cameroun et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Cameroun est un producteur d'aluminium qui dispose d'importantes réserves de bauxite. Également, le Cameroun est un pays riche en ressources naturelles agricoles, la banane, le cacao, le café, le coton, le miel également, ce qui fait que c'est un pays autosuffisant à 95% sur le plan agroalimentaire et le secteur de l'élevage procure des revenus à environ 30% de la population rurale. Et d'ailleurs, c'est un pays où la majorité de la population vit à la campagne et non à la ville, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui, même si il y a, semble-t-il, exode rural au Cameroun. Mais ça, on va en reparler après le bulletin d'information de 7h30. Pour l'instant, on écoute Prince Eyango. Il est fils d'un pasteur qui composait lui-même plusieurs des hymnes qui étaient chantés dans son église.
Etomi pokore mungu, ia jendolo, esaji bajani ya e euna milente ya e bipita mise medina wongo josi mando meni mimuntina
Prince Eyango, donc, que l'on écoutait, il est talentueux, hein, et pourtant, il n'a pas touché une guitare avant l'âge de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, les guitares, semble-t-il, coûtent cher, si bien que les adultes ne laissent pas les enfants y toucher. Mais toujours est-il qu'il a fini par toucher une guitare, il l'a appris, et finalement, au bout d'un an seulement, il jouait suffisamment bien pour être recruté par un groupe professionnel. C'est ainsi qu'a débuté sa carrière. Il est 7h28. Les Camerounais, ce n'est pas une surprise, adorent le football. Vous connaissez peut-être l'équipe nationale, surnommée les Lions Indomptables. Une équipe qui possède un palmarès impressionnant, médaille d'or olympique aux Jeux de Sydney en 2000, Coupe intercontinentale et 4 championnats de la Coupe d'Afrique des Nations. Après le bulletin d'information de 7h30, on va déjeuner à Yaoundé, capitale du Cameroun, avec le révérend père Jean Bessala Elundu, qui y dirige un orphelinat. Et on reçoit Roger Keta, un Camerounais d'origine qui habite maintenant au Saguenay. Il est conseiller en gestion de l'information documentaire chez Hydro-Québec. Et c'est un air de flûte Pygmé qui nous amène au bulletin d'information de 7h30, interprété par Francis Bébé, qui est né à Douala en 1929, décédé en 2001, journaliste, auteur et également joueur de flûte. Il est 7h30, place aux informations régionales avec Louis-René Ménard.
Bon samedi matin, mesdames et messieurs. Contrairement à l'an dernier, les réservoirs de Rio Tinto Alcan débordent. Il y a eu cet été des précipitations records les plus importantes des 30 dernières années. Des conditions exceptionnelles pour la production d'énergie. Mais de nombreux bris d'équipement ont freiné l'élan du producteur d'aluminium. Priscilla Plamondon, La Lancette.
L'été dernier, Rio Tinto Alcan a fait face à une pénurie d'eau. Le lac Saint-Jean a atteint un niveau historiquement bas. La sécheresse a forcé le géant de l'aluminium à acheter un bloc d'électricité supplémentaire à Hydro-Québec. Cet été, la situation est passée d'un extrême à l'autre, comme l'explique Claudine Gagnon, porte-parole de la multinationale.
On parle des précipitations les plus importantes depuis les 30 dernières années. Nos réservoirs amont sont à 85-90% pleins. Le lac Saint-Jean également est à un niveau autour de 15,5 pieds.
À l'heure actuelle, on devrait produire au maximum.
Mais ce n'est pas le cas, selon le président du syndicat de la division énergie électrique, Pierre Simard. La multinationale perdrait plutôt de l'argent.
Les dernières semaines, on a eu plusieurs bris, entre autres à la centrale Limaligne, qui fait en sorte qu'on on a augmenté nos pertes de production. Il y a plusieurs équipements dans nos installations qui, présentement, sont très vieux et on doit intervenir rapidement. Le cri d'alarme qu'on lance aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre. On manque vraiment de main-d'œuvre. Les fréquences d'inspection sont en diminuant.
La direction de Rio Tinto Alcan assure qu'elle fait tout pour profiter des précipitations records.
On a la possibilité de produire davantage, mais il y a une capacité maximale tout de même que nos équipements nous amènent à respecter.
Priscilla Plamondon, La Lancette, Radio-Canada, Alma.
Pour la première fois depuis 1987, le taux de chômage au Saguenay-Lac-Saint-Jean est plus bas que pour l'ensemble du Québec. Selon Statistique Canada, le chômage s'établissait à 7,1% le mois dernier dans la région, pendant qu'il se situait à 7,4% au Québec. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean comptait 9400 personnes au chômage le mois dernier. Mais au cours des 12 derniers mois, la région perdait 3200 emplois. Pour l'économiste chez Emploi Québec, Clément Desbiens, le bas taux de chômage dans la région cache une faiblesse du taux d'activité et du niveau d'emploi.
Il reste que le taux d'activité au Saguenay-Lac-Saint-Jean est encore inférieur au taux d'activité de l'ensemble du Québec. Si vous voyez, il est à 58,4 et vous voyez que c'est à 66,6 dans l'ensemble du Québec. Ça influence le calcul du taux de chômage. C'est pour cette raison-là que notre taux de chômage a rattrapé un petit peu celui du Québec.
Pendant ce temps, à Saguenay, le taux de chômage affichait seulement 6,1 le mois dernier, une diminution d'un point et demi sur août 2010. La Sûreté du Québec, assistée de la GRC, a saisi 3500 plants de marijuana dans la forêt de la MRC Domaine du Roi, au nord-ouest de La Dorée. Les plants d'un mètre de haut avaient été cultivés en plusieurs îlots dans un secteur ravagé par un incendie l'an dernier. Les policiers ont découvert cette plantation grâce à la surveillance aérienne, explique la porte-parole de la SQ, Hélène Nepton.
Ils l'ont même fait de ras ici. Là, ils ont emporté des pièces d'ailleurs. Ils reprenaient, puis ils ramenaient. Ils servaient ça comme entrepôt. Ça, eux autres, les bâtiers.
Eh bien, nous nous excusons. Il ne s'agit pas de l'extrait sonore de Hélène Nepton. Rappelons que c'est la première saisie importante cette saison dans le cadre de l'opération Cisaille qui vise à éradiquer les plantations de marijuana dissimulées en forêt. Et les deux jeunes de 10 et 12 ans appréhendés cette semaine par les policiers de Saguenay à la suite d'une série de vols et d'introductions par effraction dans des maisons privées sont des cas exceptionnels selon la Direction de la protection de la jeunesse. Le garçon de 12 ans pourrait être traduit devant le tribunal de la jeunesse, tandis que son complice âgé de 10 ans seulement devrait faire l'objet d'un signalement par la DPJ. La loi fédérale sur le système de justice pénale pour les adolescents fixe à 12 ans l'âge de la responsabilité criminelle. Le chef de service à la DPJ régionale, Jean-Pierre Gagnon, indique au quotidien la possibilité que même le jeune de 12 ans ne soit pas traduit devant les tribunaux après l'examen de l'ensemble du dossier, tant par les services sociaux que par le ministère public. Voilà, c'était les informations régionales.
Merci beaucoup, Louis-René. 8 degrés sous le soleil à Saguenay. Écoutez, c'est pas compliqué. C'est du temps ensoleillé pour aujourd'hui sur l'ensemble du territoire avec un maximum de 15. Dégagé pour ce soir et cette nuit, minimum de 5, sauf dans la réserve phonique où on atteindra le fatidique zéro la nuit prochaine. Et demain, ça commence sous le soleil. Il y aura ennuagement en fin d'après-midi ou encore tôt en soirée. Mais belle et chaude journée. Demain, maximum qui pourrait aller jusqu'à 22 degrés. Quel temps fait-il à Yaoundé, capitale du Cameroun? On le saura dans quelques secondes puisqu'on s'y rend déjeuner avec le révérend père Jean Bessala Elundu qui dirige un orphelinat. Mais pour nous y rendre, on va écouter quelque chose d'assez particulier. Vous allez reconnaître l'air tout de suite, je peux vous le dire, c'est un air de Georges Brassens, c'est vraiment un de ses plus connus. C'est interprété par Christo Nompoubi, donc un artiste camerounais. Ça se retrouve sur un disque intitulé Brassens en Afrique. Et l'instrument, on va en écouter quelques notes, l'instrument qu'il utilise, tenez-vous bien, c'est sa joue.
Comme il atteignait l'orée du village, filant sa quenouille, il vit Cendrillon.
Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. En tout cas, toujours est-il que on va retrouver la pièce en question. Et c'est une chanson donc de Georges Brassens, un air très connu, Les copains d'abord. Et il utilise, là on prend le temps simplement d'installer le CD dans la machine, mais il utilise donc l'intérieur de sa joue avec son doigt, j'imagine. Je ne me risquerai pas à le faire pour vous, mais on vous fera entendre ça dans quelques secondes. Pour l'instant, on va se rendre donc à Yaoundé, où on joint le révérend père Jean Bessala Elundu, qui dirige l'orphelinat Nanga et il est donc dans la capitale du Cameroun. Bonjour, référent père.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Oui. Oui, ça va ici depuis le Cameroun.
Quel temps fait-il chez vous?
Oui, actuellement.
Actuellement, quel temps? Pardon?
Petite pluie ici. Oui, petite pluie.
Donc,
il pleut un peu ici.
Donc, nous sommes dans la saison des pluies, si je comprends bien?
Oui, nous sommes dans la saison des pluies. Il fait froid ici.
Froid, qu'est-ce que ça veut dire, froid, pour un Camerounais? Est-ce que vous m'entendez, Révérend Père?
L'humidité est élevée ici.
Parlez-moi un peu de Yaoundé. C'est une grande ville?
Oui, la ville de Yaoundé, c'est une grande ville. Autrefois, Yaoundé s'appelait Eondo, qui est un nom qui fut déformé par la prononciation allemande en Yaoundé. Il restait jusqu'à nos jours Yaoundé, appellation française. Yaoundé est encore appelée la ville aux sept collines à cause de sa géographie qui est constituée de sept collines. La ville est divisée, cette ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun, elle a sept arrondissements. Oui, parce que à Yaoundé, nous retrouvons Yaoundé 1er, Yaoundé 2, c'est divisé. Et en outre, c'est le siège des institutions républicaines, Yaoundé en quelque sorte.
Et c'est une ville très populeuse. Combien d'habitants à peu près habitent Yaoundé?
Yaoundé, la population de Yaoundé varie entre 8 000 et 1 million d'habitants. Elle est diversifiée. Plusieurs tribus se côtoient ici à Yaoundé. Nous avons par exemple comme tribu les Eondo, les Bassa, les Bamileke. Tous se côtoient ici à Yaoundé. Hein?
Et l'économie de la ville ou de la région de Yaoundé tourne autour de quoi? De quoi vivent les gens?
De quoi vivent les gens ici à Yaoundé? Les gens à Yaoundé vivent. Les gens ici à Yaoundé vivent beaucoup plus de l'agriculture, ils vivent du commerce. Par exemple, ici en ville, on retrouve des gens qui font du commerce à gauche et à droite. À Yaoundé, il y en a des hommes d'affaires et des fonctionnaires. On se nourrit généralement des produits exportés, riz, café. L'économie est en quelque sorte diversifiée. Et la façon même à Yaoundé de s'habiller sont multiples et variées. Les gens s'habillent aussi avec des costumes, les jeans, les tenues. Il y a beaucoup plus de gens en tenue traditionnelle.
Ah oui.
La musique, la musique ici à Yaoundé, par exemple, au goût du jour, c'est le bikuti qui est beaucoup dansé, le makossa. Et en plus de ça, aussi à Yaoundé, la population est très pieuse. On y retrouve beaucoup de religions. Par exemple, à Yaoundé, il y a l'islam, le catholicisme, le protestantisme. C'est à peu près le mode de vie ici à Yaoundé.
Et il y a beaucoup de jeunes aussi, je crois.
Oui, les jeunes, il y en a beaucoup plus de jeunes à Yaoundé. Par exemple, au niveau de les zones rurales, comme les jeunes se déplacent des villages pour la ville de Yaoundé. Cela est dû à la pauvreté, la rareté de l'espace foncier. Et même dans les villages, on retrouve la sorcellerie. Beaucoup de jeunes sont obligés de quitter les villages pour Yaoundé, d'où la saturation de la ville de Yaoundé, de certaines villes au Cameroun, comme particulièrement la ville de Yaoundé, car les jeunes y trouvent des structures de formation un peu modernes. Parfois, ils quittent les villages. Donc, il y a beaucoup plus de jeunes à Yaoundé.
Et s'il y a beaucoup de jeunes, est-ce à dire qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup d'écoles? Est-ce qu'il y a des universités, des collèges?
Oui, au niveau du scolaire, le plan scolaire est diversifié et comprend trois cycles au niveau de Yaoundé. Par exemple, il y a le cycle primaire. Nous avons le cycle primaire qui va de la style de la maternelle au cours moyen 2. et le cycle secondaire qui va de la terminale, de la sixième en terminale.
Oui.
Et le cycle supérieur, oui, le cycle supérieur, nous l'avons aussi. Mais sinon, il faut révéler que la gratuité de l'enseignement est appliquée dans le secteur public. Toutefois, le secteur privé est payant à tous les niveaux. À tous les niveaux. La gratuité est au niveau du primaire, de certains établissements primaires. Mais au niveau du privé, tout est payant ici. Et par exemple, le manque de structures scolaires créées par l'État fait en sorte que le secteur privé se développe de plus en plus. Donc, ça fait que les Camerounais sont obligés de payer, d'avoir des frais de scolarité. Oui?
Parlez-moi de ce proverbe camerounais, « Avec une seule main, on ne peut pas grimper dans un arbre ». Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, avec une seule main, on ne peut pas grimper dans un arbre, ce grand proverbe. On a toujours besoin d'une autre personne ici au Cameroun, parce que on se dit que nos aïeux ont pensé que seul on ne peut rien faire. D'où cette union, nous avons cherché à nous associer avec notre principal but, qui n'est autre que subvenir aux besoins de l'orphelin, son intégration dans la vie active, pour la rencontre avec M. Pascal, parce que nous, ici, avec une seule main, on ne pouvait rien faire. La rencontre avec M. Pascal au Cameroun en 2006, quand il était là, c'est un monsieur que je l'avais observé, que je l'ai côtoyé, et j'avais été émerveillé par son sens humanitaire, ben, en outre son expertise et son expérience.
Je vais vous dire, révérend père Jean Bessala Ilundu, qu'on a une surprise pour vous, parce que le Pascal dont vous parlez, c'est Pascal Thibault, qui est le parrain, en fait, de votre orphelinat, qui habite ici au Saguenay. Il est à mes côtés, il va vous saluer.
Bonjour, révérend, c'est Pascal, ça va bien?
Oui, ça va ici, ça va depuis le Cameroun,
Je voulais juste vous dire que je vous salue personnellement et aussi les enfants de l'orphelinat, là.
Oui, ils sont vraiment ravis. Je suis même là actuellement à l'orphelinat avec eux et ils entendent comment je passe l'interview. Tout le monde est content.
Il faut saluer Yvette, la fondatrice aussi, hein?
Oui, elle est contente et elle entend ça.
OK.
Tout le monde ici à Yaoundé est content.
En tous les cas, ça me fait plaisir et je vous remercie de votre participation aussi, hein? C'est gentil.
Oui, c'est nous. Nous sommes vraiment contents parce que cette mission, on aimerait qu'elle s'étende l'orphelinat dans le but d'avoir une expérience extérieure, de faire de cet orphelinat une dimension internationale. Donc, faire de cet orphelinat une dimension internationale.
Oui,
nous encourageons cette initiative. Oui.
Rappelons, révérend père, que l'orphelinat que vous dirigez s'appelle Nanga, c'est un orphelinat qui accueille 35 enfants, donc, on vous remercie, nous aussi, infiniment d'avoir pris le temps de nous parler ce matin depuis Yaoundé, au Cameroun. Révérend père Jean Bessala Ilundu, je vous salue et à une prochaine.
Oui, c'est nous qui vous remercions et nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour cet orphelinat et les enfants vous embrassent tous à voir depuis le Canada. Moi, je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Et Pascal Thibault, on peut peut-être parler justement de ce lancement qui aura lieu, c'est vendredi le 16 septembre à la Bibliothèque publique de Chicoutimi. De quoi s'agit-il?
C'est un lancement de livres, c'est un conte jeunesse pour enfants. Ça s'adresse aux enfants de 3 à 8 ans. Et ce qui est important de mentionner aussi, c'est que lors du lancement le 16 septembre prochain, il y a une partie des argents qui va être remis directement à l'orphelinat pour aider les enfants au niveau alimentaire. Et déjà, on a déjà entamé là, une collecte. Et aussi, ce qui est important de dire, c'est d'inviter les gens à aller sur le site www.yeuxducoeur.com, les gens qui veulent s'impliquer via notre groupement d'entraide pour le Cameroun.
Oui, parce que vous avez fondé cet organisme à but non lucratif, donc les Yeux du Cœur. Également, vous avez cofondé les éditions Espoir et justement ce livre qui s'appelle « Andrea s'inquiète de la maladie de sa mère » est publié aux éditions Espoir. Et le lancement, je le rappelle, aura lieu vendredi 16 septembre à 19h à la Bibliothèque publique de Chicoutimi.
Exactement.
Pascal Thibault, merci beaucoup de votre passage dans nos studios.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir. Et merci de nous avoir aidé à trouver aussi le révérend père. Et donc, je vous rappelle comme ça, vous voyez, c'en est un exemple lorsqu'on vous demande si vous connaissez des gens qui, à qui on pourrait parler dans d'autres pays et que vous avez envie de nous les présenter. Monsieur Thibault l'a fait gentiment. Donc, et, si vous voulez le faire, la fin de semaine en un mot, @radio-canada.ca ou encore par téléphone, le 696-6600, poste 7777. On a retrouvé le Brassens joué par une joue. Voici ce que ça donne. C'est spécial, hein? Les copains d'abord, vous l'aurez reconnu, mais c'est joué par une joue. Je ne sais pas si mon invité, Roger Quetta, est capable de jouer de la joue. Bonjour, M. Quetta.
Bonjour, monsieur.
Est-ce que, c'est commun au Cameroun d'interpréter comme ça?
Vous l'avez dit, le Cameroun est composé de 200, plus 250 ethnies, là. Donc, c'est assez rare de voir quelqu'un qui fait un peu le tour du Cameroun, là. Moi, particulièrement, ça ne vient pas de ma région, donc... Ça fait partie du système camerounais, mais on est tout imprégné de cette réalité. Donc,
Et vous dites que ce n'est pas votre région. Quelle est votre région natale?
Moi, je viens de l'ouest du Cameroun, là, dans un village qui s'appelle Banganté.
Oui.
Oui, c'est ça. Donc, le Cameroun est composé de 10 provinces. Bon, peut-être un peu moins que le Cameroun, un peu moins que le Canada, là, parce qu'avec les territoires, le Canada a un peu plus que 10. Et puis, vous l'avez dit... Nous sommes les seuls au monde là, à être bilingues, français, anglais.
Oui.
Surtout, donc, c'est ça qui fait comme. C'est ça qui facilite le rapprochement entre le Canada et le Cameroun.
Oui. Et vous-même, votre langue natale, quelle est-elle?
C'est le Banganté. Ça vient vraiment de mon village, parce que chaque village est associé vraiment à une langue. C'est vraiment le Banganté.
Ouais. Est-ce que ça vous rend nostalgique d'entendre parler du Cameroun comme ça ce matin,
de la musique Cameroun? J'étais très, très surpris et puis en même temps ravi de voir une plage réservée vraiment au Cameroun. C'est assez rare.
Est-ce que vous y retournez souvent?
Oui, je m'étais donné comme un engagement personnel d'y retourner toutes les 2 ans.
Oui.
Peut-être que ça va aller à toutes les années maintenant. Donc, on l'espère qu'on va respecter... cet échéancier-là.
Parce que vous avez encore de la famille là-bas, j'imagine?
Bien sûr, presque toute ma famille y est. Oui. Donc, ici, je suis avec quelques-uns. Mon petit frère est arrivé récemment, là. Puis il y a ma nièce, et puis il y a ma cousine à Montréal. Mais le gros de ma famille reste au Cameroun, même si on a quand même beaucoup de personnes issues de ma famille qui vivent en Europe.
Oui.
Je pense que la plupart vivent encore au Cameroun.
Oui. Et le concept de famille en Afrique, on sait que c'est assez élargi. Hein? C'est plus élargi qu'au Canada.
Tout à fait, c'est ça.
Ça fait longtemps que vous avez quitté le Cameroun?
Oui, ça fait quand même une dizaine d'années.
Oui.
Ça fait une dizaine d'années que j'ai quitté le Cameroun. Je suis passé par l'Europe. Et puis, voilà quoi. Et puis, je suis ici depuis... ça fait 7 ans que je vis au Canada.
Et pourquoi avez-vous quitté?
Ben, c'est sûr qu'au Cameroun, comme vous avez dit, là, c'est un pays en développement. Même si on veut aujourd'hui croire que... Même si nous sommes plus rangés aujourd'hui vers les pays pauvres, mais on était un pays en développement, maintenant on est rendu pauvre avec la situation économique qu'on sait tous maintenant. Ça fait que pour pouvoir bénéficier d'une bonne étude, comme on va dire, là, il faut pouvoir s'expatrier parce que les infrastructures chez nous, là, comme j'ai pu entendre dans votre émission d'avant, là, ne sont pas assez appropriées pour pouvoir façonner l'homme de façon véritable.
Oui.
Donc, pour pouvoir devenir un vrai professionnel, les infrastructures sont plus développées ailleurs que chez nous. Et puis, ça fait partie aussi de l'histoire du monde, de l'immigration. Hein.
Oui.
Ça, il faut toujours aller voir ce qui se passe ailleurs pour pouvoir mieux s'épanouir, mieux se développer chez soi.
Oui, et d'ailleurs, vous êtes allé voir, vous le disiez, avant de venir ici, vous êtes passé par l'Europe, vous êtes allé en Suisse, en fait.
Oui, j'étais en Suisse à Genève, où j'ai commencé mon cursus scolaire en droit. Bon, j'ai étudié au Cameroun en droit, je suis allé en Suisse, j'ai étudié en droit, et je suis arrivé au Canada. Bon, écoutez, J'étais fatigué d'étudier en droit parce que, dépendamment du pays où on se trouvait, le système changeait.
Ouais.
Et puis ça fait que le droit qu'on avait étudié, le droit est plus local. Hein. Ça fait qu'il fallait toujours recommencer. Voilà pourquoi je me suis orienté vers quelque chose de plus universel, quoi.
Et c'est en arrivant ici au Canada que vous avez réorienté donc votre carrière et vos études, c'est
ouais,
ça? Oui,
tout à fait. En arrivant au Canada, j'ai préféré faire quelque chose de plus universel, qui sont les sciences de l'information. Mais avec l'avantage qu'en sciences de l'information, on travaille beaucoup plus avec des lois. Donc, c'est les lois qui orientent vraiment l'information. Donc, ça fait que j'ai rien perdu de ce que j'ai acquis à la base.
Oui.
Mais c'est ça. Donc, maintenant, aujourd'hui, là, que je sois au Canada, aux États-Unis ou au Cameroun, je crois que je peux m'exprimer sans gros changement.
Et pourquoi avez-vous choisi le Québec? Qu'en fait, je ne sais pas si vous avez choisi le Québec, mais comment ça s'est fait, ça?
Ben, c'est sûr qu'au départ, j'avais choisi le Canada. C'est arrivé au Québec que j'ai su qu'il y avait une distinction très, très poussée entre le Canada et le Québec, ce qui est très légitime. Donc, écoutez, moi, j'ai choisi le Québec parce que, étant en Suisse, j'avais opté pour l'Amérique du Nord. Et puis, le Québec a facilité... Mon choix a été plus facile pour le Québec parce que c'était un... Je ne veux pas dire un pays, là. Une province où le français a été mis de l'avant.
Ouais.
Et comme moi, je viens du Cameroun, qui est un pays bilingue, mais francophone d'origine, j'ai préféré aller plutôt au Québec. Et puis, je ne regrette pas mon choix, quoi.
Mais vous avez quand même travaillé un an en Alberta?
Oui, je suis allé en Alberta après mon baccalauréat au Québec. Ben, en fait, travailler, oui. Mais mon but premier était d'aller améliorer mon anglais. Ben, je suis arrivé, je me suis inscrit pour des cours d'anglais. Et puis, tout de suite, j'ai vu une offre d'emploi au gouvernement que j'ai postulé. Moi, je pensais que je n'étais pas bon en anglais, mais... Ils m'ont fait comprendre que j'étais meilleur plus que je ne pensais. J'ai travaillé presque 8 mois, voilà. Et puis, écoutez, la culture n'est pas la même hein, au Canada. Mmh. C'est là où j'ai compris que, sans parler de souveraineté, c'est là où j'ai compris qu'il y avait une cause quand même légitime à défendre vraiment la langue française, qui fait partie de la culture aussi. Donc, j'ai compris que ce n'était pas mon coin.
Et le Saguenay, c'est parce que vous avez complété vos études au Québec à l'Université Laval, donc à Québec. Ouais. Comment se fait-il qu'on vous retrouve maintenant au Saguenay depuis...
Ben, le Saguenay, c'est beaucoup plus une réalité professionnelle parce que quand j'ai complété mes études à l'Université Laval, j'ai été engagé par Hydro-Québec. Et puis, il y a eu comme ce mouvement de personnel qui veut qu'à un moment donné, on soit appelé à occuper d'autres fonctions, toujours à Hydro-Québec ailleurs. C'est ça qui m'a amené au Saguenay.
Mm.
Donc, c'est beaucoup plus dans cette mouvance-là que je me suis retrouvé ici au Saguenay.
Et votre intégration, ça s'est passé comment?
Ben, ça va très bien. Je suis très content parce que moi-même, j'étais le premier à être comme inquiet. Je ne savais pas que j'allais passer près de 2 ans ici. Mais je suis sûr que peut-être j'en ferais plus même. Peut-être 5, peut-être 6, on ne sait pas. Hein. Donc, je suis très content de l'accueil que mes collègues m'ont réservé ici. C'est... Moi, je suis très bien ici, ça, s'il faut vous le dire, comme je vous disais tantôt. Là, je suis bien ici au Saguenay. Puis, bon, on ne sait jamais, là, mais je ne suis pas prêt à partir tout de suite.
Non.
Mais on ne peut pas décider, on ne peut pas savoir ce qui va arriver demain. Là, ben, je suis bien ici.
Ouais. Se trouver un emploi, ça a été difficile parce que souvent, les immigrants qu'on a reçus l'an dernier nous disaient que c'était peut-être la partie la plus difficile dans le processus d'intégration, c'était la recherche et l'obtention d'un emploi.
Oui, mais comme je vous disais la dernière fois, je ne vais pas parler... Je ne veux pas être le porte-parole de tout le monde, là, parce que chacun a son histoire et son expérience. Mais je dirais que pour moi, c'était plus facile. Comme je disais, ben, quand on arrive ici, il faut vraiment s'imprégner des réalités. Il faut rencontrer les gens pour leur demander des conseils, comment faire et tout. Mais parce que l'immigration, là, c'est au Canada. Le Canada vraiment participe à une politique qu'on appelle l'immigration choisie.
Oui.
Donc, c'est quoi? Ils ont des modes de sélection qui sont basés sur... Je suis des diplômes et des expériences étrangères. Ben, c'est sûr qu'une fois que ces immigrants arrivent ici, là, ben, c'est pas toujours facile parce que le système n'est pas le même d'un pays à l'autre. C'est sûr qu'un Canadien qui arrive en France, peut-être moins que le Français qui arrive ici, a toujours besoin de compléter certaines études pour pouvoir mieux s'adapter. Donc, c'est ce qui fait que les étrangers, bon, beaucoup plus d'Africains, quand ils arrivent ici, je crois qu'ils doivent pouvoir compléter certaines études pour pouvoir mieux s'adapter à la situation. Mmh. Et ce n'est pas toujours facile parce que quand on vous sélectionne sur la base d'une certaine qualification, je vais dire, vous, quand vous arrivez sur place, vous êtes, vous venez avec l'idée de travailler tout de suite.
Oui.
Mais vous êtes peut-être surpris quand on vous dit que votre diplôme n'est pas reconnu tout de suite. C'est vrai que l'État fait des efforts pour pouvoir faire la reconnaissance des études en ce qui concerne l'équivalence. Mais je crois que la réalité du travail veut qu'il y a toujours des choses à compléter.
Oui. Donc il faut y aller, il faut avoir une stratégie, j'imagine.
C'est ça, il faut avoir une stratégie d'emploi comme une stratégie d'études. C'est-à-dire, on va à l'école pour pouvoir... on décide d'aller à l'université, par exemple, on décide de se spécialiser vraiment dans un domaine spécifique pour pouvoir occuper une fonction spécifique, plus ou moins. Et c'est la même chose pour l'emploi. Une fois qu'on entre à l'université ou au cégep, je veux pas parler spécifiquement de l'université, oui. Là, mais c'était un exemple. Il faut pouvoir savoir où est-ce qu'on veut se rendre et commencer à partir de cet instant-là à développer une stratégie, oui, pour le futur.
Donc, créer des emplois d'été, c'est ce que vous avez fait en tout
cas. Oui, mais c'est sûr que moi, j'ai eu la chance avec les études que j'ai faites par le passé de faire beaucoup de stages au gouvernement. Ce qui fait qu'à la fin de mon diplôme, j'avais quand même assez d'expérience et un réseau de contacts qui m'ont permis quand même d'accéder à certains emplois de manière un peu plus facilement, un peu plus facile que les autres, quoi.
Vous êtes ici pour rester, Roger Guetta?
Rester où?
Ici, au Saguenay.
À la radio ou bien au Saguenay?
À la radio, vous pouvez rester tant que vous voulez.
Ben, au Saguenay, comme je vous ai dit tantôt, je suis bien. C'est sûr qu'on ne sait pas. Vous-même, je vous dirai la même chose. Vous ne pouvez pas me dire si vous allez rester définitivement ici.
Non, c'est pour ça que je préfère poser des questions que répondre.
Ben, c'est sûr que je suis bien. Donc, pour l'instant, j'ai pas un programme de partir tout de suite, là, mais à moins que vous me chassez, là.
Non, on ne vous chasse pas.
C'est sûr que, ben, c'est sûr que je suis bien, comme je vous ai dit. Et puis, je suis content de mes collègues qui m'ont bien accueilli. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup qui me suivent, là, parce que j'avais gardé ça pour moi-même. Mais il y a beaucoup qui sont venus me voir pour me dire hey, « tu passes à la radio demain ?» J'ai dit « ouais, je vais faire un effort d'être là. »
Ben, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir été là, Roger Guetta. Je rappelle que vous êtes conseiller en gestion de l'information documentaire chez Hydro-Québec, Camerounais d'origine et Saguenayen d'adoption. Merci beaucoup de votre passage dans notre studio.
C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites pour le Cameroun. Ça m'a vraiment fait plaisir d'entendre toute cette plage réservée au Cameroun.
Mais on va se quitter sur quelques notes du Cameroun, justement. Okay. Merci, au revoir.
Merci à vous.
Au cours de la prochaine heure, on marche pour la dystrophie musculaire, 13e édition de la Dystromarche qui aura lieu demain à Jonquière. Les informations de 8h dans un petit moment et on se retrouve tout de suite après.
Écoutez la première chaîne de Radio-Canada au 93.7 au Saguenay et au 93.1 au Lac-Saint-Jean. Il est 8h. Écoutez pour voir.